Plus FM, 8h passées, 2-3 minutes, nous retrouvons Pascal Gaultier en compagnie de son invité. Bonjour Pascal.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Nous accueillons ce matin Frédéric Corin, le nouveau premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste de Loire-et-Cher. Bonjour Frédéric Corin.
Bonjour.
Bienvenue sur Plus FM, vous êtes également conseiller municipal de Muide et puis vous êtes membre de la communauté de communes Beauce-Val-de-Loire.
Beauce-Val-de-Loire, dirigé par Marc Fesneau.
Où vous siégez.
Voilà, c'est la fusion de la communauté de communes Beauce et Forêt et puis de la Beauce ligérienne.
Alors voilà. Vous voilà à la tête de la Fédération PS de Loire-et-Cher, vous voilà en première ligne. Vous étiez le seul candidat, pour quelle raison Frédéric?
Alors j'étais le seul candidat tout simplement parce que les autres candidats s'étaient désistés pour ma personne et je les en remercie. Parce que ça donne un symbole d'unité qui était important aussi dans une période qui n'est pas toujours évidente pour le Parti Socialiste non plus. Et effectivement, malgré cette unité qui faisait en sorte qu'il n'y avait qu'un seul candidat, il y a eu une proportion de voix impressionnante pour moi, donc je remercie tous les militants qui sont déplacés.
Quasiment tout le monde a voté pour
vous. Il y a eu 3 bulletins blancs sur le département, alors qu'ils sachent que je leur en veux pas. Ils ont le droit de douter, mais j'essaierai de faire en sorte de les convaincre que malgré tout, les autres ont fait le bon choix.
C'est pas une opposition très vive.
Non, mais en plus, j'ai été très touché de toutes les marques d'affection qui m'ont été données depuis cette élection. Et on s'est déjà mis au travail pour faire en sorte que le PS retrouve des forces aussi dans le Loir-et-Cher, puisque la période est délicate pour nous.
Juste un mot donc sur la portée effectivement de cette candidature. Une seule candidature, c'est un signe de rassemblement et d'unité en même temps qui est envoyé.
Voilà, c'est ça. En fait, on voulait montrer qu'on était capable tout simplement de s'entendre entre nous sur un programme, sur des idées, donner un message clair. Éviter d'affronter des bisbilles, de perdre de l'énergie dans des débats inutiles. Et j'ai associé d'ailleurs les anciens candidats à mon programme. Ils vont travailler avec moi aujourd'hui. Et on va travailler mieux, plus vite, normalement ensemble.
Justement, vous aurez une équipe autour de vous, elle est désignée, elle existe, cette équipe, ou vous êtes en train de la constituer?
Alors, elle est déjà constituée depuis un certain moment, parce qu'on s'est mis au travail, finalement, avant même l'élection, puisque du coup, il n'y avait plus qu'un seul candidat, donc on pouvait déjà commencer. Mais officiellement, elle sera nommée ce soir, puisqu'on a un bureau fédéral ce soir, où je proposerai justement cette équipe. Et bon, a priori, j'espère qu'elle sera acceptée par mes camarades.
Et unie, parce qu'évidemment, ça ne vous a pas échappé, que souvent le PS est traversé par des courants, des sensibilités, il y a même des humeurs souvent frondeuses au sein du PS. Tout le monde va s'y retrouver, là.
C'est l'objectif, parce que j'aimerais justement qu'on fasse de la politique, en fait, parce que j'entends pas beaucoup de politique, et le fait de confronter les idées, pour moi, c'est vraiment de faire de la politique. Et je pense qu'on peut en sortir grandi. J'en parle parfois à mes élèves, le terme dispute au Moyen-Âge, c'était de débattre l'un avec l'autre et de progresser à la fin pour s'élever ensemble. Quand on voit ce qui est devenu le terme dispute aujourd'hui, on se rend compte qu'on a perdu l'habitude de débattre et de progresser ensemble. Alors, modestement, je vais essayer de faire en sorte de rassembler toutes les personnes et puis de dégager nos valeurs communes, parce qu'on a beaucoup plus de valeurs communes, finalement, que de choses qui nous opposent, quand on fait le bilan. Alors, par exemple, je sais qu'il y a eu certains points de crispation sur le quinquennat de François Hollande. Pour faire clair, il n'y en a pas 10 000 non plus. Il y a le CICE, il y a le débat aussi sur la déchéance de nationalité.
Il y a la loi Macron, il y a la loi El Khomri, il n'y en a pas 10 000, mais il y en a quand même pas mal.
Voilà, c'est les deux autres que je voulais ajouter. Donc, vous voyez, on est raccord. Pour autant, on a aussi des valeurs fortes, communes, des projets qu'on a portés, qu'on a beaucoup oubliés finalement, parce que peut-être que quand on est dans l'action, on retient aussi que le négatif, si tant est que ce soit négatif, on verra, l'histoire le jugera, mais on oublie les combats qu'on a menés sur la parité, par exemple, sur l'accès au logement, sur les bourses étudiantes, notamment. Tout ça a été un petit peu oublié. On pourrait penser aussi au mariage pour tous, par exemple. Voilà. Alors, l'histoire jugera.
Dans cet inventaire, vous trouvez des points positifs, des points qui méritent effectivement néanmoins d'être salués, d'être défendus.
Oui, et puis surtout, je vais me tourner vers l'avenir. Quel projet on veut faire, et ensuite trouver les moyens d'y arriver, quoi. Donc, effectivement, là, en ce moment, pour faire clair, dans la gauche, il y a un vrai débat sur la logique économique, effectivement. Par exemple, la ligne Macron ou non, le CICE ou non.
Macron n'est pas au Parti Socialiste.
Hein. C'est vrai, d'ailleurs, il l'a affirmé. Hein. Pour autant, sa loi a été votée dans un gouvernement socialiste. Donc,
se place plutôt dans le camp de la gauche, malgré tout.
Voilà, mais ça fait partie, de toute façon, de l'inventaire qu'on a à faire aussi. Hein. De l'efficacité de cette loi ou non, par exemple. D'ailleurs, c'est une loi qui avait beaucoup d'articles. Hein. Il y a sans doute des articles qui étaient favorables, d'autres moins. Par exemple, le transport en bus Macron. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine unanimité sur le fait que le train étant peu accessible pour des gens qu'on peut les moyens.
Ça démocratise les transports. Et on en voit et ça marche. Il suffit de prendre l'autoroute pour les voir. Hein,
c'est ça. Je raccompagnais ma nièce hier encore dans un bus Macron. Bon, elle, en tant qu'étudiante, forcément, pour elle, c'était quelque chose d'important. Mais bon, enfin... C'est pas que la loi Macron, les bus, hein, c'est aussi beaucoup d'autres choses, mais justement, je pense qu'on aura nécessité de toute façon de faire l'inventaire de ce qui marche et de ce qui marche pas, hein, comme dans toute démarche politique, j'ai envie de dire, de toute façon.
Et vous appelez donc de vos voeux ce débat au sein du Parti Socialiste. Vous serez le garant, justement, de l'organisation, de la qualité, du respect du débat au poste de premier secrétaire fédéral, et justement pour que les gens issus de sensibilités, de courants différents, se retrouvent, justement, et se parlent.
C'est ça, justement. Je vais essayer d'être le garant, je vais essayer d'être efficace dans ma fonction. J'ai envie qu'on puisse débattre dans le respect des valeurs de chacun. Je ne prendrai pas parti lors de la primaire pour être le garant justement de cette neutralité.
Mais sinon, pour être clair, vous avez un favori? Vous êtes plutôt Valls, plutôt Hamon, plutôt quelqu'un d'autre?
Pour l'instant, pour être tout à fait clair, j'attends surtout de débattre avec chacun des intéressés. Là, j'ai eu la chance de voir Monsieur Hollande à Blois récemment et de pouvoir débattre avec Monsieur Hamon.
Vous avez cassé la croûte avec lui.
Voilà. Bon, déjà, je vois ma chance, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas forcément accessible à tous tout le temps dans le débat, et je vois aussi que c'est des personnalités qui sont fortes malgré tout et qui incarnent une certaine forme de projet. Et je jugerai les gens sur leur projet. J'aurai un avis personnel, évidemment, je voterai moi aussi, mais en tant que garant des débats, justement. Je vais être garant justement de la liberté d'expression de chacun, de faire en sorte qu'on puisse s'exprimer dans le respect. On peut avoir des points de vue divergents sur certains aspects, mais encore une fois, ce qui nous unit est quand même beaucoup plus fort que ce qui nous divise. Et le respect de ces valeurs-là, c'est ces valeurs qu'on doit porter, valeurs de fraternité, d'égalité. Alors, vous allez me dire, c'est les valeurs de tous les Français normalement aussi, hein, logiquement.
Et de tous les socialistes, normalement. Enfin,
mais voilà, le socialisme, c'est normalement la volonté de réformer la société, de garantir une paix sociale par un progrès qui est possible à chacun. Et cette notion de progrès social, c'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié dans une période qui est un petit peu morose, quoi, aussi. On en parlait tout à l'heure ensemble, mais moi, j'ai regardé rapidement le débat des primaires hier du camp opposé, de la droite. Je l'ai regardé à contre-cœur, je me suis dit, il faut que je le voie quand même. J'ai pas été déçu dans le sens où j'en attendais pas forcément grand-chose, mais j'ai vu que des projets, par exemple, de suppression des projets par la négative. Ce qui m'a surpris,
supprimer les fonctionnaires, par exemple.
Par exemple, hein. A priori,
pas tous les fonctionnaires, mais entre 3 et 500 000, si on a bien compris la fourchette.
Alors j'espère que je vais pas perdre mon boulot au passage, hein, mais
vous êtes titulaire.
Je suis titulaire de la fonction publique. Alors je sais pas si ce sera rétroactif ou pas, mais supprimer les fonctionnaires, j'ai envie de dire peut-être. Pourquoi? Enfin, c'est un moyen, mais un moyen pour arriver à quelle fin? Si la fin n'est que économiser, enfin, c'est quelque chose que je trouve absurde. Les politiques sont là pour faire un projet. Quel est le projet de société de ces politiques? Pour l'instant, j'ai pas la réponse. Et de notre côté, j'aimerais aussi qu'on parle de ce projet. Alors après, on peut parler des moyens pour ces projets-là. L'État doit-il intervenir dans tous les domaines? Oui, non. Alors effectivement, dans ce cas-là, on peut toujours discuter de l'intérêt de garder certains fonctionnaires ou pas. Mais par exemple, supprimer un poste de fonctionnaire sur deux lors d'un départ à la retraite, c'est une stupidité sans nom. Enfin, on l'a perçu, par exemple, dans le domaine de la police, où c'était un drame absolu.
On pourrait enseigner l'histoire à un élève sur deux.
voilà. Là, on se rend compte de l'absurdité. Moi, j'ai 35 élèves en classe. D'ailleurs, je les salue au passage, s'ils m'écoutent. Enfin, là, normalement, ils devraient bientôt rentrer en cours. Donc, ils ne devraient pas m'écouter, normalement. Mais effectivement, faire des classes à 70, enfin, enfin, vous voyez, dans mon domaine, c'est idiot, mais pas seulement dans le mien, dans tous les domaines. Quelles sont les priorités de l'État? Quelles sont nos valeurs, nos projets? Qu'est-ce qu'on veut faire? Effectivement, quels moyens on se donne de les faire? Je crois que c'est la base, tout simplement.
Ouais, ça fait deux fois que vous employez le mot projet. Donc c'est plutôt le quoi plutôt que le qui. Or, on a l'impression que le débat politique, c'est le casting. Aujourd'hui.
Voilà, c'est vraiment ce que je reproche au débat politique actuel. Le débat d'hier, il était intéressant aussi à ce niveau-là. Vous avez une minute pour traiter de la laïcité. J'avoue avoir du mal à traiter en une minute un sujet comme celui-là. On va traiter dans la même minute l'islamisme, le trafic de cannabis, la laïcité et les attentats terroristes. J'en veux pas aux candidats de la primaire de la droite.
Pas d'amalgame, entre les quatre sujets que vous venez de citer.
Et justement, voilà ce qui favorise la paresse de la pensée, l'amalgame facile. Et quelque part, ça favorise aussi, par exemple, le discours du Front National, qui, n'ayant qu'un seul argument sur l'immigration, sur tous les sujets possibles et imaginables, au moins, ça leur donne une clarté dans leur engagement. C'est dur d'expliquer un concept, une idée, une chose complexe en une minute. Et hier, ils ont eu bien du mal et je les comprends.
Alors la gauche va se prêter à l'exercice aussi dans quelques semaines, donc l'exercice de la primaire, donc avec des candidats qui donc d'ores et déjà sont déclarés. Vous en avez rencontré un samedi dernier,
un et demi presque même.
Je ne sais pas si François Hollande ira. Il n'a plus le soutien des juges, en tout cas.
Sans doute.
Voilà. Donc là, vous attendez un débat de qualité justement, avec une confrontation de projets, pas seulement de caractère ou d'ego.
C'est ça. Alors, quand j'ai vu François Hollande, c'est vrai que lui, le contexte du débat faisait en sorte qu'il était plus sur la défensive, puisqu'on lui posait des questions, il devait défendre un bilan. Par contre, Benoît Hamon, lui, était d'une certaine manière plus à l'aise pour débattre de son projet. Alors, j'espère que...
Il n'a pas vraiment de bilan à défendre. C'est longtemps ministère de l'Éducation nationale.
C'est ça. Je suis un ministère maudit. Moi. Dans mon emploi, on reste en général assez peu longtemps. Donc effectivement, lui, il était plus à l'aise pour défendre son projet. On voit bien qu'il y a une différence qui est quand même assez marquée avec d'autres candidats comme Montebourg, par exemple. Donc effectivement, ça risque d'être intéressant en termes de voir. Et puis concrètement, nous, ici, dans le Loir-et-Cher, dans mes missions, il y a organisé aussi ces fameuses primaires. Il faut que je trouve 200 bénévoles pour tenir le plus de bureaux de vote possible.
Alors, il y avait au moins 200 votants pour votre élection, à l'unanimité,
oui, mais
quasiment.
Il y a déjà beaucoup.
Donc vous les avez déjà, les 200.
Oui,
là.
Oui,
ils vont
mais
quand
y a
même
déjà...
se mettre au travail, les militants. Là.
Mais je suis inquiet sur la répartition territoriale. J'en parlais avec vos confrères de la Nouvelle République. Pour moi, justement, dans les projets, une des choses les plus importantes, c'est l'égalité territoriale. C'est-à-dire que on va focaliser, par exemple, sur les migrants comme une source de danger, mais moi qui habite une petite commune rurale, je suis de Mude-sur-Loire, le danger premier, c'est la perte de tous les services qui sont inhérents à une petite ville. C'est-à-dire l'accès aux soins, par exemple, qui est assez catastrophique dans la région, quand même. Je viens d'une autre région à l'origine. J'étais surpris de tomber sur des déserts médicaux comme ici. L'accès aussi au commerce, par exemple, le soutien aux personnes âgées, etc. Les vrais problèmes, ils sont là. Et là aussi, les hommes politiques, j'ai envie de dire presque de droite comme de gauche, ont parlé économie, budget, suppression maternité, etc., etc. Alors, on peut rationaliser, évidemment, hein, mais on peut pas à la fois défendre la ruralité, par exemple, ou le bien-vivre en campagne, et dans le même temps, supprimer les postes de gendarmerie, éloigner les services des citoyens. Moi, par exemple, dans ma commune, on a eu un poste de gendarmerie qui a fermé, on a une poste qui a fermé, on a une épicerie qui va pas très très bien, on a une boulangerie qui a fermé, on a une charcuterie qui a fermé, etc. On n'a pas réussi à obtenir un distributeur automatique de billets, par exemple. Voilà. C'est autant de contraintes qui font en sorte que les gens se sentent exclus de la société et effectivement nourrissent des peurs, notamment vis-à-vis des migrants, par exemple.
Alors, il y a plus de tout ça, effectivement, au monde rural, mais il y a un constat démontré par les urnes. Il n'y a plus de socialistes dans le monde rural. Ça fait partie de votre travail d'essayer aussi de remailler le territoire.
C'est ça.
Présent, effectivement, aux zones urbaines, etc. Et même aux dernières élections au départemental, vous n'aviez pas des candidats partout. Il faut reconquérir des territoires, être à nouveau présent, visible, audible partout.
C'est ça, oui, justement. C'est ça qui m'inquiète. Quand j'entendais le discours des candidats à la primaire et la suppression de leur poste de fonctionnaire, par exemple, je pouvais pas m'empêcher de penser aux gens qui habitent, je sais pas, Nain-sur-Beuvron ou Jouarre-le-Marché, c'est les endroits où j'ai travaillé. et me dire que...
Bah, un nain sur Beuvron, comme ça, spontanément.
Non, mais j'y ai travaillé avant que M. Pelletier y soit, donc j'ai au moins le privilège d'être là avant lui. Et effectivement, moi, de mon point de vue...
C'est un migrant politique, alors.
Bah, il a beaucoup migré. Hein. De mémoire, il était en Touraine avant, et puis ça s'était pas très très bien passé, je crois. Hein. Donc,
et des migrations idéologiques.
Voilà, il avait trouvé une terre d'accueil ailleurs. Bon, je suis pas certain que tout le monde en soit ravi, forcément, à Nain-sur-Beuvron. Enfin, du moins, c'est les échos que j'en ai. Hein. Mais bon, je vais laisser Monsieur Pelletier à ses errances. Hein. Mais effectivement... Ces communes-là, il faut être honnête, hein, le PS est peu représenté. Est peu représenté parce qu'il a sans doute pas répondu aux attentes de ces gens-là. On est d'une autre manière surreprésenté dans les villes, ce qui nous donne parfois l'image d'un parti bobo, alors sans forcément des paniers en osier non plus. Hein.
C'est injuste.
Alors c'est injuste, oui et non, parce que tout simplement le vote par nature est juste. Hein. Si les gens le ressentent, c'est qu'ils ont une raison de le ressentir. Pour autant, c'est vrai que quand on compare les programmes des partis politiques, ça peut paraître assez surprenant. Il y a aussi une tradition. Hein. Je suis prof d'histoire, donc effectivement, je sais que la Petite Beauce, ça n'a jamais été une terre ultra radicale de gauche non plus, hein, par exemple. Hein. Mais d'une certaine manière, les gens sont sentis sans doute un peu abandonnés. Et effectivement, il faut répondre aussi à ces angoisses-là, mais des ruraux, mais aussi des périurbains, hein, par exemple. Hein. Le Parti socialiste ne peut pas se contenter d'être un parti de grande ville, même si effectivement la France est devenue très urbaine. Il ne faut pas rentrer dans ce calcul. Moi, je suis très sensible à la notion d'égalité des citoyens. Effectivement, je n'ai pas l'impression que ce soit très égalitaire. Quand un gamin est obligé de se lever extrêmement tôt pour avoir un bus qui va faire des détours dans tous les sens pour arriver à son collège ou son lycée, est-ce qu'il est franchement égalité avec quelqu'un qui habite au centre-ville? C'est une question qu'on peut se poser.
Hein. Bon, la réponse est non, clairement. C'est voilà. Une évidence.
Vous avez des élèves qui sont parfois transit fatigués. Et c'est dur de leur en vouloir parfois, parce qu'on va leur demander le même résultat à la fin. Voilà, garantir cette égalité, c'est quelque chose qui me paraît fondamental, et je pense que la France a les moyens de le garantir.
Vous manquez pas de cran de prendre cette responsabilité en cette fin d'année 2016 et avant une année 2017 qui s'annonce pour le moins difficile pour la gauche, pour le Parti socialiste, même si vous allez tout faire pour inverser peut-être les pronostics.
Ah, c'est marrant parce que tout le monde me dit ça. Enfin, soit c'est vous avez du cran.
On a le sentiment que ça se bouscule pas forcément.
Soit on me dit bon courage aussi, enfin avec un air navré. Alors, mais moi je suis pas du tout dans cet état d'esprit. Hein. C'est-à-dire que, au contraire, justement, c'est enfin le moment où on va peut-être pouvoir parler politique. C'est-à-dire que là, il va y avoir des primaires à gauche aussi. C'est enfin le moment où on va peut-être, pour une fois, sortir de la petite actualité scandale de la semaine à chaque fois. Alors, je n'en peux plus, moi, de la semaine Burkini, de la semaine panier en osier, de la semaine... ce rythme médiatique, mais insupportable, peut-être... J'espère qu'on va pouvoir enfin sortir de là. Et puis, c'est aussi le moment d'un bilan. On en avait parlé tout à l'heure, mais voilà, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Je sais qu'il y a une usure du pouvoir, elle est évidente, mais là aussi, elle n'est pas liée que à François Hollande. Hein. On se rappelle tous du Sarkozy bashing qu'il y avait eu lors du quinquennat précédent. Peut-être que aussi, M. Sarkozy est responsable d'une certaine utilisation des médias.
Il suffit de dire Sarkozy pour que toute la gauche se rassemble. Là, ça y est.
Bah, il a un effet repoussoir qui est assez étonnant.
C'est un ciment extraordinaire pour
la
gauche.
Oui, mais il a aussi un fan club. Hein, mais oui, c'est vrai que cette utilisation des médias... ça m'est insupportable. Et voilà, je pense qu'au contraire, nous, c'est plutôt une opportunité. L'opportunité, justement, bah, d'essayer de présenter un projet, de rassembler les gens. Les gens, une certaine partie de l'électorat de gauche a rejeté Hollande, et moi, je veux bien les écouter, je suis tout prêt à accepter leurs critiques, mais sans jouer le anti-droite primaire, ce qu'ils reprochent à François Hollande, bah, effectivement, d'accord, mais que construisons-nous? Voilà. Sur quelle base? Et effectivement, c'est là-dessus qu'il faut... Moi, je suis pour une réflexion qui soit positive. C'est-à-dire, l'inventaire, il se fera de toute façon. Il se fera, l'histoire le fera de toute façon. Je suis un peu navré aussi de l'oubli qu'on a de certaines mesures.
Mais vous souhaitez que François Hollande défende ses chances à l'occasion de cette primaire qu'il reste, s'il a envie de rester le cachet, il se soumette effectivement à
cette primaire,
où il faut tourner la page.
C'est une décision qui lui appartient. Et puis le choix, il se fera par les gens de gauche, hein, et peut-être certains de droite qui auront voté à la primaire de la gauche, puisqu'on parle beaucoup du sens inverse en ce moment.
Qu'en pensez-vous de ça? Vous avez envie d'aller vous voter à la primaire de la droite?
Non, j'irai pas voter à la primaire de la droite, parce que j'aime pas déjà signer quelque chose que je ne pense pas, enfin, je ne partage pas les valeurs de la droite. Donc je vois pas faire un... Alors, faux en écriture, parjure, peut-être pas, enfin, j'irai peut-être pas jusque-là, mais je vais laisser...
On pourrait éliminer un candidat en vous disant si en 2017, ça n'est pas la gauche qui gagne, je préférerais avoir Poisson ou Le Maire, plutôt que Sarkozy ou Juppé. Enfin,
je déteste ces calculs politiques. Alors, je suis peut-être pas adapté à la société telle qu'elle est, mais je me rappelle d'une conversation houleuse avec des amis lors de la présidentielle où Jospin était candidat, où chacun disait « Oui, alors moi, je vais voter pour un tel ou une telle parce que je voterai pour la gauche au deuxième tour. » Bon, ça m'avait fâché à l'époque en disant, si tout le monde pense comme vous, la gauche au deuxième tour, elle sera pas là. Et bon, hélas, sans me jeter des fleurs, j'avais vu juste. Je m'en fiche de savoir qui sera en face. Alors peut-être que Juppé paraît moins clivant que Sarkozy, oui, sans doute. D'un autre côté, quand on regarde le programme de Juppé, c'est un programme de droite, libéral, et bon. Il se trahit pas dans ses convictions, il a toujours été clair là-dessus. Je partage pas cette vision de la société-là, même si j'ai un respect pour la personne. Hein. Donc je ne me vois pas voter pour Juppé, pour contrer Sarkozy. Non, 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 non.
Ouais, ils ont tous à peu près le même logiciel, sauf peut-être Nathalie Kosciusko-Morizet, on l'a vu hier soir. Bon, enfin, il y en a qui sont à Windows 9, d'autres à Windows 6.
Il y en a deux qui m'ont surpris. Enfin, il y a Nathalie Kosciusko-Morizet, donc effectivement, qui représente une droite peut-être plus ouverte sur le monde, moins réactionnaire, moins conservatrice. Et puis Monsieur Poisson, qui lui défend sa ligne chrétien-démocrate et qui était aussi logique dans ses convictions. Alors, je partage pas ses convictions non plus, mais au moins ces deux-là ont le mérite d'être cohérents par rapport à leurs idées. Pour le reste, on a une espèce de magma de anti-fonctionnaires, de nationalisme light, etc. Enfin, ce sont pas des vrais programmes politiques.
C'est important, cette exigence de cohérence. Un dernier mot, vous êtes le premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste n'est pas seul au monde.
Non.
Il y a des partenaires,
bien
éventuellement,
sûr.
Des alliés. Certains les qualifieront de naturels ou pas. À gauche, quelles relations souhaitez-vous engager? Il y a des écologistes, il y a des communistes, il y a le Front de Gauche, des gens avec qui vous avez souvent fait du chemin ensemble. Comment voyez-vous les choses?
C'est vrai. Et alors, effectivement, j'ai participé aux élections régionales. J'étais sur la liste. Tout le monde nous annonçait perdant, d'ailleurs. On a gagné. On a gagné aussi parce qu'on avait développé des partenariats, alors notamment avec l'UDE, parti peu connu, mais malgré tout un parti de gauche et écologiste. Là aussi, moi, c'est peut-être un peu naïf de ma part, mais je pense que on peut additionner les débats, les idées et progresser ensemble. Alors, je sais que y a beaucoup de gens qui sont situés à gauche, voire à l'extrême gauche, qui sont très remontés, qui sont aussi parfois dans une logique révolutionnaire, anti-institutionnelle, qui fait en sorte que finalement on va souvent scier la branche sur laquelle on est assise. Mais pour autant, je crois qu'il y a aussi la possibilité d'associer les gens. C'est une primaire de la gauche au sens large. Et moi, j'appelle les gens non seulement à nous aider à ouvrir le plus de bureaux de vote possible sur le département, parce que j'insiste sur la nécessité d'avoir accès au vote pour tous, mais à s'engager aussi dans le débat d'idées. Vous souhaitez une ligne de gauche qui soit plus radicale? Défendez vos convictions, soutenez celui qui vous paraît le plus proche de vos idées, présentez-vous même, à la limite, pourquoi pas. Hein. Le tout sauf la droite marche si on présente un candidat crédible à gauche. Puis en général, on ne gagne pas une campagne par opposition à l'autre, mais plus par adhésion à son projet, même si effectivement, on a souvent reproché à François Hollande d'avoir été élu contre Nicolas Sarkozy. Il y avait aussi 60 propositions à l'époque. Là aussi, il sera intéressant de faire le bilan de ce qui a été fait, pas fait, jusqu'où on est arrivé. On ne sort de ce débat politique-là que par le haut. Sinon, la sortie, elle est toute trouvée. Hein. C'est-à-dire qu'on aura une gauche qui sera laminée, une droite triomphante. Il sera trop tard pour pleurer. Après, les banderoles contre la loi travail, non seulement vous pouvez les ressortir, mais vous pouvez agrandir la banderole fois 100, fois 1000, hein, parce que il suffit de consulter les projets des candidats aux primaires pour voir qu'on n'est pas du tout dans la même logique. Hein. Là aussi, enfin, sans faire trop longtemps sur la loi travail, on peut constater l'écart qu'il y a eu entre la première loi travail et la deuxième. Hein. Même si moi, il y a encore des points qui me gênent dans la deuxième, ce serait malhonnête de considérer le projet final comme étant le projet initial aussi. Là aussi, on peut peut-être porter grief au gouvernement de pas avoir peut-être suffisamment concerté au départ avant d'avoir présenté son projet. Il y a eu des couacs dans ce gouvernement, mais j'ai envie de dire, vu le nombre de décisions et de projets de loi qui sont pris par les gouvernements, des couacs, vous en avez forcément. Et on doit les limiter le plus possible, mais j'ai bien peur que ce soit inévitable.
À suivre. Donc, oui. Rendez-vous bientôt donc pour l'organisation de cette primaire à gauche. Et vous serez donc le garant local aussi de la bonne organisation et de la loyauté, effectivement, donc de cet événement. Merci Frédéric Corin d'avoir
été
notre invité.
C'est moi qui vous remercie de votre invitation.
Bon courage. Je vous le dis sans être du tout navré. Bon courage, effectivement, parce qu'il en faut. Et puis, il faut de l'engagement pour prendre les rênes d'une formation politique.
Merci encore.
Mais Pascal Useglio a dû vous donner des tuyaux.
Oui, évidemment.
Merci, bonne journée.
Au revoir.
La seule radio locale en Loire-et-Cher.
Le plein de tubes, le plein d'infos.
Plus FM.